să fii bojul. Domnul și nu se sunte, nu se mai zanțien de repor. Mais également la croisette, et puis aussi l'aérothèque. Je tiens beaucoup à saluer l'aérothèque qui a fait beaucoup de choses pour le souvenir de l'île de Roissy. Et je ne peux pas passer là-dessus parce que c'est très important qu'il y ait ce respect de cette route. On va passer assez rapidement sur. Certaines situations, parce que on vient juste d'en parler, donc aussi un avion voisin qui n'est pas un avion à peu près, mais qui pour aller monter une usine de montage d'avion voisin chez les Russes, en Crimée. Ça n'a pas marché parce que 1917 s'est tombé très mal, il y avait la révolution bolchevique. Et les ouvriers l'ont quitté, il a dû repartir. Non pas avec moi, le monde n'était pas dans cet équipier. Mais il a dû repartir, faire le tour d'Europe et passer par l'Angleterre et rejoindre la France. C'est là où il a été muté, il était adjudant, il a été muté à Charles. Alors, ce qu'il faut. Bien, c'est quand même ce souvenir. On se demandait pourquoi un personnage comme De Wattrim va arriver à faire des avions extraordinaires, alors qu'il n'a même pas une formation d'ingénieur. Il a ça l'approche de beaucoup. Il a été à l'école privée, c'est une super école, on le retrouve à Saint-Bloch comme compagnon de travail, là, d'études. Et il va s'intéresser aux avions par force parce que en étant engagé à 19 ans, et bien avec des avions qu'il va trouver en Afrique du Nord, puisque c'est là où on va le muter au départ, avec ses avions voisins, etc., il a très rapidement des bonnes notions d'aéronautique. Et c'est là un petit peu qui le différencie avec beaucoup de constructeurs. Donc on le voit ici avec De Wattrim et Marcel Moine. Et là, ces deux hommes vont s'entendre, mais ne vont pas s'entendre sur une finalité qu'il s'agit de faire des avions. Moine le voit d'une certaine façon. Et De Wattrim n'a pas cette idée. Alors voici la chaîne des sanctions dont on vient de parler. Avec l'appareil terminé, donc je ne parlerai pas de toute la réussite, c'est une réussite collective, ce n'est pas De Wattrim, c'est une réussite collective. Il faut dire qu'il apporte beaucoup de choses, de l'ordre, ce qu'il savait déjà à l'avance pour faire des fameux voisins, bien il va l'appliquer là. Il est d'autant plus facile que. C'est le chef, puisque c'est le chef du programme, puisque il n'y a personne au-dessus de lui, même la PQL est obligé de suivre un petit peu ses observations, c'est lui qui met ça en ordre, et il va y prendre le coup. Donc on a mis cette photo tout à l'heure, ce qui veut dire surtout que la PQL va surtout se polariser sur la ligne postale qu'il va faire. Et il va non pas abandonner, mais laisser un peu en sommeil les avions. De Wattrim avec moi, nous allons travailler sur des projets de la T3, de la T4, mais ça ne va pas plus loin. De Wattrim, en 1920, ça va comme un grand, sans un sou, ce n'est pas le mot, mais pas très riche. Il va attaquer un chasseur. Qui sort de l'ordinaire pour les gens du STI. Il va le proposer, puis on va lui en acheter un. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas le premier, ce n'est un. On lui demande s'il est vraiment constructeur, alors il va être obligé de louer un bâtiment un pasteur près des Minimes. C'est un drôle de constructeur parce que l'avion ne sera pas fait. Il sera assemblé à Pasteur, mais il va être fait chez un sous-traitant au boulevard Viquet. Donc, c'est d'entrée quelqu'un qui a des idées, assidu à l'aviation, qui est assez extraordinaire. Il va essayer de faire, il faut bien vivre, il va faire des galères, et puis également, voilà un petit avion, c'est une avionnette, où il va gagner de l'argent avec, avec très peu d'essence. Ça va être un concours qu'il va gagner avec un journal national, certainement. Il va faire le l'aller-retour de la Manche, il va traverser la Manche et aller-retour avec très peu de niveau d'essence. Enfin, ça va être amusant, et puis surtout il va gagner un petit peu d'argent, et surtout il va récupérer quelqu'un d'extraordinaire. C'est voici encore cette avionnette. Il va récupérer cet homme, Marcel Doré, qui va être son pilote d'essai, qui va établir des records du monde, qui va faire voler tous ses avions, tous ses prototypes. Il va sortir 43 prototypes, hein, et il va établir 18 records du monde. Il va être aidé également avec Marc Briquet, qui est le patron du Spano Suiza. Et il était Spano Suiza parce que quand il avait quitté sa Suisse natale, il est allé s'installer à Barcelone, où il a reçu un très très bon accueil. Il a un souvenir de. Il a nommé sa société Spano Suiza. Et alors, Birkin va l'aider, ainsi que il y a des Japonais qui tournent autour là, en particulier Mitsubishi qui l'aime bien, discuter avec de Joaquin, et ils vont lui donner, ils vont lui prêter un peu d'argent pour ses fabrications. Il y aura un lien avec cette société japonaise, et par la suite il sera dit, c'est en partie vrai, c'est pratique, lorsque les Japonais se taperont la flotte américaine à Pearl Harbor, il y a un peu du Novatine là-dessous. Mais je sais que les Japonais n'avaient pas peur d'aller acheter aussi des avions chez Breguet. Il va essayer de franchir un pas supplémentaire, c'est-à-dire les avions de transport. Et ça va être très difficile parce que c'est quelque chose qui est fermé. Pourquoi ? Parce que les lignes aériennes que vous voyez ici, on voit très bien celles de la Tequera, mais après il y a les lignes qui vont sur Londres, sur Amsterdam, Varsovie, etc. Les patrons de ces lignes, ce sont les constructeurs de la Grande Guerre. Donc, c'est eux qui dirigent ça. Inutile de vous dire que déjà qu'ils ne voient pas très bien d'un bon œil la Tequera, c'est pas des voitures qui vont leur faire peur. Donc, ça va être bloqué. Alors voici ces compagnies qui vont finir par faire Air France. Hein, elles ont toutes des jolis noms et puis d'assez beaux avions. On va les voir ici. Là, par exemple, ça c'est Blériot, le Swat Blériot. Vous remarquerez que ce sont des avions un peu plus confortables quand même que les Breguet 14. Et nous sommes à la même époque. Là, c'est Farman qui fait avec un bel avion qui fait certainement la liaison sur Londres. Et puis ça, c'est Breguet 20. C'est assez extraordinaire comme cette prolifération d'avions que nous avons dans ces années 20. Tout en tenant compte quand même que, ces gens-là vont également profiter des stocks d'avions. Ils vont les modifier. Par exemple, le Breguet 14 va devenir le Breguet 19, on va les modifier sans trop forcer. Alors, de Martin, qui va jouer un rôle énorme pour Toulouse, et même ça, même ça peut-être le savoir au départ, bien sûr, bien, de Martin est presque à la faillite. Il est obligé de fermer ses usines, il n'en avait pas 36, il avait celle de de pasteur. Et puis, on avait monté une, enfin, ouvert un bureau-usine à Châtillon, côté de Paris. Et il ferme. Il se retrouve vraiment à zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de commande de militaires. Il n'y a que là qu'il y a de l'argent, puisque, je vous l'ai dit, tout est verrouillé côté des transporteurs civils. Alors, il se trouve que comme il avait fait ce fameux dédain qu'on a vu tout à l'heure, et qui avait plu, parce qu'il n'a pas été commandé par l'armée, mais il a été commandé par d'autres pays. Et en particulier, il y avait la Suisse. Il y avait de très bonnes relations qui avaient été établies. Et les gens de Suisse l'interpellent, disent, venez chez nous, venez nous faire quelque chose, on va encore modifier notre armée, parce que il y avait toujours avec la progression des moteurs, il y avait toujours la progression des avions. Bon, mais heureusement que on voit beaucoup aux fabricants de moteurs, que ce soit Nyon, Rhône, Renault, Hispano-Suiza, on doit beaucoup à ces gens-là, parce que c'est eux qui ont fait évoluer les avions. Inutile de vous dire que s'ils avaient eu les moteurs qu'on trouve sur la 380, on aurait eu autre chose. Alors, ça progressait lentement, mais sûrement. Alors, ce qui fait qu'il va aller en Suisse, à Thun, ça s'appelle, cette petite ville, et il va fabriquer ce D-27 que vous voyez. Il va le fabriquer et les Suisses vont ensuite le prendre en série, ils en feront 70. Il va revenir en France. Il va revenir en France, voici une photo qui a été prise là-bas. Il y a à gauche Marcel Doré, au milieu je ne sais pas qui, et de droite, il est à droite. Là. Marcel Doré ne va pas rester toujours en place, en permanence, près de Wattine. Pourquoi? Parce que de Wattine n'arrive pas à sortir tellement d'avions. Alors, il va se lancer avec un D-27. Qui va un peu modifier, de 27 de Wattine, donc le nom de Wattine va être porté dans le monde entier grâce à Marcel Doré. Il va participer, ça va être un pilote extraordinaire de voltige, il va participer à beaucoup de métiers, il va même être, il va aller aux États-Unis, il va être même champion du monde de voltige à Chicago en 1930. Plus tard, il va découvrir un planeur, un magnifique planeur fabriqué par les Allemands. Et il va être également champion du monde. Et puis après, il revient immédiatement auprès de son patron. C'est plus un patron, c'est un ami. Et il fait ce que font beaucoup de grands pilotes. Eh bien, il donne des conseils. On a l'exemple avec Lindbergh qui n'hésitait pas, lorsqu'il posait un avion, lorsqu'il vient de l'essayer, d'aller sur la planche et dire c'est là qu'il faut modifier. Et Marcel Doré fait la même chose, il explique bien à son patron pourquoi ça ne marche pas ou qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce qu'un avion qui marche bien, c'est pas le terme, qui vole bien au départ, c'est excessivement rare. Enfin, il y a des gros progrès parce qu'il fut un temps où il y a eu des constructeurs, lorsqu'ils préparaient le vol d'essai, bien l'avion, il restait au sol. Parce que le moteur n'était pas assez puissant, ça n'était pas trop bien calculé. Mais ce ne fut pas le cas de Wattine. Alors, de Wattine va bénéficier d'une commande de l'État qui cherche à. Il y avait une grande ambiance de raids, les militaires étaient également dans le coup, chacun faisait des grands raids, et de Wattine va proposer cet avion qui est assez extraordinaire, c'est le D-33 Trébunion, il fait 30 mètres d'envergure, alors il pèse près de 10 tonnes, et il y a plus de 8000 litres de carburant, c'est-à-dire que c'est une bombe volante, il y a trois places là-dedans, il y a pour le pilote, une sorte de copilote et navigateur. Hein. Et puis, cet avion va battre des records de vitesse, record de distance. Bon. Alors, cet avion va servir à faire un rêve qui est annoncé partout, c'est Paris-Tokyo. Voilà le trait d'union au boucher pour son grand départ. Il va, malheureusement, cet appareil ne va pas réussir parce que tout en ayant fait peut-être 2000 km, il va trouver des problèmes de mauvais temps. Le moteur va. C'est un monomoteur, hein, c'est pas un bimoteur. Dès que ce moteur tombe en rade, là, c'est tombé, c'est l'avion. Alors, l'équipage, ces deux braves garçons, Le Brix et Mesmer vont sauter en parachute. Et lui, il va poser l'avion dans la forêt, dans la taïga de Sibérie, plus ou moins bien, c'est-à-dire que l'avion est détruit. Mais il y a un parfumeur, Coty, qui veut bien se faire voir, et il a l'argent, on leur commande un deuxième avion, qui malheureusement va suivre le même chemin, à la différence que les deux autres hommes qui avaient pu sauter en parachute ne le feront pas dans un millimélo de « c'est la nuit, c'est doré », leur dit « sautez ». Oui, on le fait, puis en réalité, il y a Henry qui a oublié de s'arracher avec le parachute, ce qui était... Alors qu'entre eux, ils avaient bien dit que chacun dormirait plus ou moins avec le parachute, bien, pas de chance. Il avait laissé son parachute de côté, donc son copain l'a aidé, et le temps qu'il l'aide, lui, Doré, il avait la porte ouverte, Doré sort, je croyais qu'ils étaient sortis, ce n'était pas le cas. Il a retrouvé les deux corps, ça l'a terriblement affecté, il a même parlé à un moment donné d'arrêter de faire de l'aviation. Il va continuer, de Watkins, à faire des. Va se lancer dans les trimoteurs. Le précédent, là, le trait d'union, était le premier avion à aile basse. Il a toujours été en avance dans sa façon de travailler. Donc il va continuer avec ce genre d'avion. Là, c'est un trimoteur, c'est l'aileron. Entre-temps, il en a fait trois pour Air France et non, c'est le contraire, il les fera un peu plus tard. D'ailleurs, c'est l'Eurode. Alors l'Eurode, c'est un très bel avion qui a été commandé par Air Orient et puis Air Orient est absorbé par Air France. Il va donc, cet avion va faire Paris-Saigon et puis il va revenir. Il va revenir, puis alors il va se poser à Lyon. Et là, la météo était absolument mauvaise, et terrible. Et bien, ça ne fait rien, comme il y a une grande manifestation, on fait une grande fête aérienne. Il y a dans la croisière noire qui est revenue avec ses prothèses 25, il y a le président de la République, et on dit au. Lorsque le pilote téléphone à Paris en disant « je ne peux pas venir monter parce que la route est vraiment affreuse », on lui dit « on ne fait pas attendre le président de la République ». Toujours est-il que l'avion va s'écraser dans le Morvan et tout le monde va mourir. En particulier, il y aura Maurice Noguès, qu'on appelait le Mermoz de l'Orient, qui avait ouvert toute la voie de l'Orient. Et ça sera bien sûr une couture pour de Watkins. Et il va en fabriquer trois autres. Alors la France, du coup, annule sa commande. Il va en fabriquer trois autres, mais ça ne fait rien. Alors là, on voit c'est encore notre Eurode. Je tiens un peu à cette photo parce qu'en dessous, il fait un exercice avec les hélices, là. Il fait un exercice. Et en dessous, vous voyez d'autres avions. Vous voyez la finesse de l'avion de Dovatine à côté des autres. Hein. Donc c'était toujours à même époque. Hein. Mais on n'hésitait pas à faire des avions. Il y avait un nommé Jean Viru comme avion qui était de Farman, qui était extraordinaire, qui avait un nez qui montait jusqu'au plafond. Enfin, là, ça vous donne la qualité technique de ce Dovatine. Alors Dovatine va lancer des petits avions de chasse. Il va avoir quand même un marché, mais Cette photo est prise, je pense, il devait faire le bazar parce qu'il avait. Il avait loué un hangar à Frangazac pour faire l'assemblage de ses avions, de ses trimoteurs. Et là, on voit ce petit avion, c'est le D-510. C'est toute une série des 500 et 510. Et de voiture, il va décrocher un contrat de 400 avions. Seulement, il n'a toujours qu'un modeste local. Il n'arrive pas à fabriquer en série. Et l'État se garde bien de l'aider, parce qu'il y a déjà au moins une quarantaine d'usines en France. Ça fait longtemps que ça tourne, et ça retourne. Ça tournait déjà depuis 1927 avec un ministre qui s'appelait Bokanowski. Malheureusement, il est mort dans un accident d'avion, et c'était un peu de garrot. Il fallait regrouper des usines. Et ça tournait en rond. Alors, quand De Wattine demande qu'on l'aide à équiper ces locaux-là, à Saint-Éloi, là, parce qu'il a la possibilité d'acheter ou louer Saint-Éloi, eh bien on lui dit non. Et ce qui fait que sur les 400 avions, il y en a 15 qui seront faits péniblement à Toulouse, et tous les autres, ça sera fait chez Lioré et Olivier. C'est une maison qui est à son siège à Paris, et on a regroupé De Wattine avec cette maison sous une forme juridique qui s'appelle la SAF, la Société des avions français. On ne s'était pas trop passé la tête pour le titre. Alors, De Wattine est toujours dans un. À la limite, c'est un. On ne peut pas dire que c'est un bricoleur, mais c'est vraiment, il ne fait que du poteau. Et ça tombe bien, parce qu'il y a Caco qui va avoir des hautes fonctions au gouvernement, justement, va faire la politique des prototypes. De Wattine va se lancer dans. Continuer ses trimoteurs, ça sera le meilleur trimoteur qu'aura Air France, c'est le D-338. Voilà la publicité d'Air France, on le voit au deuxième plan, là.
Bleu.
Et ici, on voit la ligne qu'il va faire entre Paris et Saigon. C'est un voyage assez pénible pour les gens, hein, parce qu'il ne vole que deux jours. Il a un rayon d'action de 2000 km, donc il faut faire 10 000. Il se pose le soir, on envoie tout le monde se reposer à l'hôtel, on refait les plaines, le lendemain on repart, mais c'est plus rapide quand même qu'avec le bateau. Et ça, c'est le dernier avion trimoteur de Wattine, qui était pas mal, c'était 642. Seulement, il n'a pas de marché d'État et il n'ira pas plus loin. Arrivent les nationalisations. Alors là, les nationalisations, c'est un véritable roman, parce que d'entrée, Toulouse n'est pas retenue. Pourquoi il n'est pas retenu? Tout simplement parce qu'il ne faut pas le poids, ni la TQR, ni le Wattine. Alors la TQR, c'est celui qui s'approche de plus de la qualité, la qualification nationale, de la nationalisation. Il a à peu près 900 employés, mais il faudrait, d'après les règles qui ont été édictées par le gouvernement, par le cartel de gauche qui a gagné ces élections et qui a décidé de nationaliser, chose qui aurait dû être faite à défaut de mot nationalisation regroupée, eh bien, il se trouve que la TQR, il y travaille énormément pour le civil, puisqu'il va faire un hydravion. Super-hydravion, et à côté, il a une commande, comme on l'a vu tout à l'heure, pour des petits bombardiers de l'avant maritime. Alors, donc, on ne nationalise que les usines qui travaillent pour l'armement, et la TQR ne répond pas à cette demande. Alors, De Wattine n'en parle pas. De Wattine, même s'il a fabriqué des D-510 qui plaisaient, comme il n'a pas de local, eh bien, il ne peut pas on ne peut pas le nationaliser. Alors ça ne fait rien, il va y avoir une montée, une poussée de fièvre des politiques qui disent quand même Toulouse c'est quelque chose, elle mérite une société nationale. Et là la montée à Paris est facile à faire puisque ce sont des gens qui ont envoyé ce gouvernement, qui ont créé ce gouvernement et qui sont bien passés, hein. C'est le maire, il s'appelle Redousse, il y a Vincent Auriol, le député qui sera président de la République par la suite, hein. Il y a qui vont monter au créneau et prendre des couleurs. Et l'antiquaire dit non. Il dit non pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a pas apprécié que il est passé par les fourches coudines, c'est-à-dire il a augmenté ses ouvriers, puisque c'était la loi, il leur a donné des congés, c'était la loi, et puis les frais ont remonté, et quand il se présente auprès de l'amiral Darlan, qui est le chef de la marine, il lui dit, voilà, bon, compte tenu de ce qui m'arrive avec ce gouvernement de gauche, là, bien, les prix ne sont pas les mêmes. Et là, la marine lui dit, écoutez, vous avez signé un contrat, c'est comme ça. Donc, on réajuste par le prix, donc, mauvaise humeur de la Técuère. Ensuite, la Técuère, l'idée d'être nationalisée, c'est-à-dire être sous les chefs, être dirigé par des ingénieurs du STAE, des ingénieurs qui connaissent bien l'aviation, mais qui ne prennent aucun risque et qui ne font qu'appliquer les règlements, et que ça le refroidisse, et il dit non, et puis ensuite il y a la loi pour lui. Et c'est comme ça qu'on va se tourner vers De Wattine, qui lui, il avait le bec dans l'eau, il avait dans cette société française aéronautique, la SFPA, il n'avait que 32% d'actions. Comme il n'y avait plus de commandes, eh bien, on a dû se séparer, ils se sont séparés plus ou moins dans l'avion, et il est rentré. Voilà donc De Wattine qui va prendre l'affaire, et il va surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre du monde, un peu de personnel, et il va même piller la Técuère. La Técuère qui va donc disparaître dans cette histoire de nationalisation, puisqu'il a ce magnifique brillant, il a ce torpilleur, mais c'est De Wattine qui ramasse la mise, et c'est la chance pour De Wattine, mais c'est surtout la grande chance pour Toulouse. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que la Técuère a une vue sur l'océan, hein, il va acheter une usine en anglais, et on garde Toulouse qui est le bureau d'études et la fabrication des tronçons, mais ensuite on va assembler à Biscarros. Là, il a les yeux fixés sur l'océan, sur ces hydromillons. Et la deuxième chose, et qui est encore malheureusement plus importante, c'est qu'il commence à ressentir les attaques d'un cancer qui va l'emporter. Donc, De Wattine va donc vous faire un joli coup. Alors vous voyez, la publicité de Wattine, c'est en 34. Hein. Il y a un siège social à Paris et l'usine, hein, à Avenue Pasteur. Alors aussi, les usines, comme elles sont réunies, donc Toulouse, c'est facile à réunir, c'est tout simple. Hein. Et les autres, ils représentent entre 4 et 5 000 personnes. Et De Wattine, il n'a même pas 1000 personnes. Ce qui fait qu'il va recevoir de l'argent au prorata, et autant dire qu'il ne va pas recevoir grand-chose. Voici la société nationale. Et alerte générale, on s'aperçoit quand même que les Allemands, c'est un véritable danger. Ça, c'est la quantité d'agneaux fournis. Les chiffres, moi, je ne jouerai pas trop là-dessus. Hein. C'est paru dans la presse, dans l'illustration, en mois de novembre 38. Et quand on dit que les Allemands n'ont que 2800 avions, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, nous, on est sûr de nos 1000 et quelques avions. Et les vitesses, alors, n'en parlons pas. À gauche, ça, c'est la chasse, et à droite, ce sont les bimoteurs, les bombardiers. Alors vous vous rendez compte qu'un chasseur français, à cette époque, qui volait à 480 km à l'heure, il était chargé de chasser un bombardier à 750 km à l'heure.
C'est un petit problème.
Il va sortir un avion, il va sortir un avion presque en douce. Au départ, il va sortir un avion, il va fabriquer un avion qui s'appelle le DC-113, un avion costaud, solide, beau, qui a les trains qui rentrent, il y a tout ce qu'il faut, seulement il y a une erreur dans le vent, il est trop lourd, et il ne vole même pas à 400 km à l'heure. Alors, il reçoit de l'argent pour améliorer cette production, et il va en douce, sans l'annoncer, fabriquer cet avion. Alors, il va présenter cet avion au service officiel, il ne branche pas, mais heureusement, il va passer aux essais en vol, et là, après quelques modifications, hein, il va être accepté, et puis on va s'apercevoir que c'est un avion qui dépasse les 500 km à l'heure, il va arriver à 520, 530 km à l'heure. Là, il va obtenir, ça c'est plus facile de passer d'une image à l'autre, il va obtenir alors, justement le renflouement de son affaire, hein, parce que comme tout le monde était, toutes les usines étaient affolées à cause des. À cause du rattrapage qu'il fallait faire vis-à-vis des Allemands, il y avait Bloch, il y avait Potès, il y avait Breguet, tout le monde travaillait à plein ras jusqu'à la gueule, eh bien, on n'a pas pu faire la manip habituelle de dire bon, bien, le Novatim 520, s'il vous plaît, on va le donner à Moral Saunier, on va le donner. On n'a pas pu. Hein. C'était ou Novatim qui le faisait, ou pas. Donc Novatim va le faire, on va. Chose qui pleurait depuis des années, on va y trouver des machines, on va y trouver des locaux, il va donc avoir son usine de Saint-Éloi, il va avoir son usine de Saint-Martin, ça c'est le plus important, hein. Il va sortir 8 avions par jour, hein. Il va finir par, avec un lancement très tardif, il va sortir 400 avions voici la longueur de 1940, voici à peu près à la même époque les deux voitures qui sont là. Il va sortir 400 avions, malheureusement, ce ne sont pas 400 avions terminés, ce sont des avions qui sont bons de vol, mais l'armée de l'air se garde de la finition, c'est-à-dire mettre l'armement, la radio, ce qui retardait le cycle, bien sûr, ce qui fait qu'il y a à peu près 200 avions, et encore peu pas sûr, hein, qui ont pu être donnés dans les escadrons de l'armée de l'air. Alors ça, c'est la victoire de Devoir-Yves. Et voilà, bien sûr, l'image. Il est évident que si ça avait été l'image allemande, vous auriez eu la fumée qui sortait de la guerre française. Avant de finir sa vie d'avionneur, il va sortir cet avion, le T-550, qui va rouler à 700 km à l'heure. Mais là, il n'aura pas droit à un marché parce que si on recommence encore à lui donner de l'argent pour ce marché, il n'y aura plus un 520 qui va sortir. Hein. Alors, c'est un grand monsieur, vous avez compris, il a eu plus de 200 projets, il y a eu 75 avions qui ont volé, des records vêtus en voilà, mais il n'était pas le seul, hein, en France. Voilà ce que va récupérer à la libération Charles de Gaulle et Tillon, Charles Tillon, le ministre de l'Air. Et là, ça c'est 1950, on retrouve deux Armagnacs et trois Languedocs. C'est vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment à deux voitures que l'on doit, les usines d'Airbus, vous pouvez le tourner dans tous les sens, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà un dessin de notre ami qui est parti, malheureusement, Jacques Oettinger, qui représente les trois avions principaux qui frappent sur les années 30. Vous voyez donc le D-328, le D-520 et puis le trait d'union. Et ça, ce n'est pas la tombe de Voitine, mais de Voitine a été incinéré. Ça, c'est un monument qui figurait à l'aérothèque. L'aérothèque a déménagé, j'espère qu'un jour on pourra y revenir, visiter, retrouver les archives. Et puis vous avez toutes les maquettes aéroscopiques. Bon, c'est pour vous dire que ce fut un homme exceptionnel, très intelligent, râleur, qui a eu de très bonnes relations avec les services techniques. Et je vais terminer par une phrase que j'ai retrouvée en lisant une notice sur Geoffrey de la Villan, qui était un fabuleux concepteur pendant la Grande Guerre, puis entre les deux guerres, et puis également dans la Deuxième Guerre, et après même, puisqu'il y avait son mosquito pendant la Deuxième Guerre, et puis le comète qui va être le premier avion à réaction commerciale. Et de la Villan, à l'époque où de Moitié, il tapait partout pour avoir quelque chose, il avait dit une fois, voyez, voilà, voyez que c'est que la vie d'un constructeur. Il faut avoir toujours la tête en l'air, hein, pour regarder, toujours les yeux en l'air, et les pieds fixés sur le sol, et les mains dans les poches du ministère. Je vous remercie de votre attention.